OK, de deux choses l'une. tu vas sur le bord des barricades et tu fais jouer le groupe préféré de Philippe Quentin, Air Supply, et tout le monde s'en va, ou alors tout le monde se prend dans leurs bras, ouais, et la paix est revenue.
Gros ça, câlin. Gros câlin.
Où les gens se sauvent en courant.
Le pouvoir de la musique est extraordinaire. Tout le monde sait ça.
Peut-être que le Canadien a écouté du Air Supply hier avant le match.
Ouais, peut-être que le Canadien a écouté du Air Supply. Écoute, ils ont surpris vraiment hier en remportant ce match-là, surtout après l'échec à Détroit contre les Red Wings. Alors, c'est très bizarre, le Canadien. Tu perds 4 matchs contre la pire équipe de la Ligue, puis t'en gagnes 2 contre un des meilleurs clubs sur la route en plus. Alors, une belle victoire pour le Canadien hier. Moi, je pensais qu'après que Ovechkin a donné l'avance au sien 1-0 et c'est son 699e but. Ça sentait le 600e qu'il attend depuis très longtemps, à peu près là, dans les prochaines minutes, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Finalement, le match, on se retrouve en prolongation et là, drôle de jeu, le Canadien va marquer. Écoutez Danny Dubé, qu'est-ce qu'il va nous dire?
Reprend la rondelle, remet dans l'enclave, tire le Chiarot, arrêt du gardien.
Non, il a marqué.
Il a marqué! La lumière n'a jamais allumé derrière le gardien. Ouais. Ben Chiarot donne la victoire aux siens.
Rondelle a passé sous le bâton de Oldby. Il a été pris par surprise sur cette séquence. Et c'est Ben Chiarot qui vient clore le débat.
Sur un tir sur réception avec l'aide de Max Domi, il a mystifié et le gardien et aussi l'officiel derrière le filet qui n'a pas officialisé ce but avec la lumière. Danny, j'étais sûr que le tir était raté.
Alors, voilà, donc, un but pour le Canadien qui arrive à un bon moment. Mais ça m'a fait rire d'entendre Danny, qui est un ancien gardien de but. Lui, il a vite compris que le gardien des Capitals venait de laisser passer un tir, mais c'était pas un jeu facile à décrire. Alors, donc, victoire pour le Canadien qui est à Ottawa demain contre les Sénateurs.
Parfait. Philippe, il est aussi dans l'actualité.
Ouais, faut que je te parle
sportive.
Des bagarres.
On en a parlé hier. Ouais. On attendait ce vote à la LHJMQ, hein, les 18 propriétaires d'équipes qui allaient voter sur l'abolition des bagarres. Finalement, il n'y a pas eu de vote.
Il n'y a pas eu de vote et la raison, semble-t-il, c'est que il n'y avait pas assez de propriétaires d'équipes qui étaient prêts à voter pour l'abolition des bagarres. Il fallait qu'il y en ait 2/3 qui soient d'accord. Alors, compte tenu de ce fait-là, on a décidé de ne pas passer au vote. Mais l'article que j'ai lu ce matin de Simon-Olivier Lorange dans la presse, lui-même, le journaliste, manifeste sa surprise. Mais il écrit que M. Courteau, alors on parle de Gilles Courteau, le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, a laissé entendre que certains propriétaires manquaient d'informations sur le dossier des bagarres, notamment en ce qui a trait aux conséquences des chocs à la tête. Alors, il y a donc des propriétaires d'équipes dans le hockey junior majeur du Québec qui, aujourd'hui, en 2020, après tout ce qui s'est dit sur les commotions cérébrales, les chocs au cerveau, les blessures à répétition de nombreux joueurs, tout ce qui est arrivé dans le football, tout ce qui arrive dans le hockey.
Les décès prématurés de bagarreurs de hockey aussi.
Ouais, et tous les problèmes d'encéphalopathie traumatique chronique qui vraiment gâchent la qualité de vie et qui réduisent à un minimum à plusieurs anciens athlètes. Eh bien, il y a encore des propriétaires dans la Ligue junior majeure du Québec qui ne sont pas tout à fait au courant de ça. Il manque d'informations, Patrick. Il manque d'informations sur les conséquences des chocs à la tête. Et citation directe de M. Courteau, on n'avait pas eu l'opportunité de rentrer aussi profondément dans l'aspect de la réglementation, expliquer les conséquences au niveau des commotions cérébrales.
Est-ce qu'ils sont au courant que l'eau gèle à 0 degré?
Il faudrait leur poser la question. Mais tu vois ça et tu dis, hey, avec tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait comme travail, les interventions des uns et des autres, les analyses scientifiques, les cas de joueurs qui ont vu leur qualité de vie complètement réduite. Et là, on nous dit qu'il y a des propriétaires qui ne sont pas encore capables de comprendre que si des jeunes de 16, 17, 18 ou 19 ans se donnent un coup de poing en plein à la tête, que ça risque de causer une commotion cérébrale et que ça risque d'avoir des conséquences à long terme. On manque d'informations.
J'ai de la misère à croire ça, Philippe.
Écoute, dans le même texte, Isabelle Charest, ministre déléguée à l'éducation et responsable du dossier sportif, est citée et elle a appris donc qu'il n'y avait pas eu de vote et elle a dit « J'espère que ce temps de réflexion supplémentaire, parce que M. Courteau nous apprend qu'on va revisiter la question l'été prochain, leur permettra de prendre la seule décision qui s'impose à mes yeux, soit celle d'interdire les batailles dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais moi, aujourd'hui, je te dirais que j'espère que Mme Charest ira au fond des choses. Et je pense que là, il est question de nos jeunes, de jeunes de 16, 17, 18 ans. Et tu sais, les ligues de hockey professionnelles, il y a une chose, et professionnelles et amateurs, comme la Ligue, dans toutes les ligues organisées, il y a une chose qu'elles détestent, c'est l'implication des gouvernements. Ça, là, on n'aime vraiment pas ça quand les gouvernements viennent se mêler de nos affaires. Alors, peut-être que le gouvernement du Québec devrait commencer à faire pression sur la Ligue junior majeure.
Je vais faire remarquer quelque chose d'autre, Philippe. Le gouvernement est sollicité par des villes qui ont des arénas, pour que ce soit pour financer des rénovations ou comme à Gatineau, je pense juste à Gatineau, là, financer un aréna. Hein? Moi, je pense que ça se demande. Ça
Tout
se demande de dire, vous voulez de l'argent public, ben voici la contrepartie. Les jeunes ne peuvent plus se taper ça ailleurs.
Voilà. Assurez-vous que ce soit un environnement sécuritaire. Alors, moi, là, je regarde ce qui s'est fait dans la Ligue junior majeure du Québec au fil des années. Bravo, là. On a amélioré la situation, puis j'en suis, puis c'est pas question de dire que rien ne s'est fait. C'est pas vrai. Oui. Il y a des choses qui sont faites. Le nombre de bagarres a diminué, le pourcentage de bagarres par match et tout et tout. Mais il en reste pas moins que je ne pensais pas qu'aujourd'hui, on nous dirait publiquement que des propriétaires d'équipes ne sont pas encore parfaitement au courant des conséquences au niveau des commotions cérébrales. Je trouve ça ahurissant et je trouve ça inquiétant.
Parfait. Parle-moi des joueuses de soccer américaines là, qui réclament 67 millions.
Ouais.
À qui?
À la Fédération américaine de soccer. C'est un débat qui dure depuis très, très longtemps, qui fait la manchette depuis toujours. Les joueuses de soccer américaines se battent pour le concept de ce qu'on appelle en anglais « equal pay », c'est-à-dire à travail égal, paix égale. Et c'est pas le cas dans le soccer aux États-Unis.
Et quand on sait, Philippe, pardonne-moi de t'interrompre, les filles au soccer américain sont pas mal meilleurs que les gars au soccer américain.
Oui, tout à fait. Elles remportent des championnats. C'est sûr que c'est pas le même environnement financier. Par exemple, la Coupe du monde masculine et la Coupe du monde féminine, on s'entend, c'est deux mondes complètement différents. Mais il en reste pas moins que les joueuses américaines mènent ce combat-là depuis des années et des années. Et là, il n'y a jamais eu d'entente avec la Fédération de soccer. Et l'automne dernier, Patrick, les joueuses ont eu l'autorisation d'un tribunal de Californie de faire un recours collectif contre la Fédération de soccer. Alors tout à fait.
Il y a un juge qui a dit go.
Oui, allez-y. Alors là, le procès est prévu pour le mois de mai, le début du procès. Mais maintenant, on pourrait régler le procès dès maintenant. Chaque partie a déposé sa proposition et le juge pourra accepter l'une ou l'autre. Il ne peut pas faire de médiation à ce point-ci. S'il se prend l'une ou l'autre, ou sans ça, il dit, ben, on ira à procès. Et compte tenu que les positions sont tellement éloignées, c'est clair qu'on s'en va à procès parce que la Fédération de soccer américaine, elle dit, écoutez, les filles, les joueuses américaines n'ont pas vraiment de cause, alors nous, on vous demande de simplement mettre un terme à la poursuite. Et les joueuses, elles, demandent 67 millions de dollars. Alors, on est vraiment dans deux univers différents. Donc, tout ce monde-là se retrouvera devant les tribunaux au mois de mai.
Merci Philippe, on te retrouve autour de table et dans une heure pour ta deuxième chronique. Donc, il est 15h28. Encore une petite mise à jour, là. Je suivais ça sur Twitter. En même temps, les discussions n'ont rien donné jusqu'à maintenant, a dit Justin Trudeau dans son point de presse. Il parle évidemment des discussions avec les chefs héréditaires Wet'suwet'en. Et je le cite, « On ne peut pas avoir de dialogue si un seul parti se présente à la table de négociation. » Et il a aussi souligné, M. Trudeau, que ceux qui font les barricades ne font pas l'unanimité dans leur communauté. Et c'est maintenant aux leaders autochtones de réfléchir à ce qu'ils peuvent faire pour sortir de cette situation. Je vous le dis, il y a un changement de ton à Ottawa. On a longtemps prêché la conciliation, le dialogue, etc. Mais là, on sent que M. Trudeau commence à en avoir, comme on dit en québécois, plein de casse. Annie Guillemette va venir nous faire un rapport complet de la conférence de presse du premier ministre dans quelques minutes. Et il y a aussi Valérie Roberts, chronique culturelle, qui s'en vient.